Chers amis, Hachem Alechem Tiachio, les horaires, Chemim, Tobim, Shanim, Nimim. Poursuivons notre étude par Achat Vaïgash. Oh, la suite. Nous voyons à présent comment Yosef va se dévoiler à ses frères. Et là, donc, nous avons vu comment Yehuda, il a imploré Yosef, imploré Dieu, imploré Yosef. Il lui a exprimé, il s'est avancé. Pour faire la vaïgash signifie la prière, ça indique qu'il demande un compromis, que Yosef accepte de faire un compromis, le pius, un arrangement, et qu'en dernier recours, il est prêt à se battre. Mais le texte lui-même, les paroles qu'il exprime, dans les oreilles, nous avons expliqué que dans les oreilles de Yosef, c'est-à-dire que Yosef doit entendre la voix de Yehuda, non pas ce qu'il est prêt à entendre lui-même, mais ce que Yehuda veut exprimer. En dernier recours, il est prêt à se battre. Bon. Et en fin de compte, à la fin du discours, il est dit, Velo yachol Yosef litapek. Yosef ne pouvait pas se retenir. Donc, il fait sortir tout le monde et il va se dévoiler à ses frères. Vaiten et kolo bipri. Alors, il se lâche. Il pleure. Tout d'un coup, il pleure. Il verse des larmes. Il pleure. À chaudes larmes. Et il leur dit, voyons, mais Yosef, Ani Yosef. Je suis Yosef. Aod avi hay, est-ce que mon père est encore vivant? Cette question est étonnante parce que Yehuda vient de dire que je ne peux pas retourner chez mon père sans le petit. Je veux pas lui causer sa mort. Je veux pas voir son désespoir. Donc il sait qu'il est vivant. Pourquoi insiste-t-il Aod avi hay? Après il dit Velo yachlo ehav la anot oto. Et ses frères ne pouvaient pas lui répondre. Ils ont été tourmentés. Ils ont été choqués. Ils ont fait un bond en arrière. Et que tout, soudain, les frères constatent l'erreur. Comme Chachamim disent, mipene aboucha, ils ont été nivhal ou mipana, mipene, c'est la honte, c'est l'erreur. On s'est fourvoyé, on s'est trompé. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous sommes trompés. Nous avons cru avoir le bon droit avec nous. Nous avons cru que Yosef, il cherchait à s'accaparer et à dominer et à causer du tort à la famille. Nous l'avons mis de côté, nous nous sommes fourvoyés. C'est comme si quelqu'un prend conscience. Pendant des années, il a agi d'une certaine manière. Et soudainement, à la fin d'un procès de longues années, il se rend compte que tout ce qu'il a fait, c'était erroné. Il s'est trompé de voie. Il s'est comporté d'une telle manière, avec une telle certitude. Il était convaincu de ce qu'il faisait. Et soudain, il s'aperçoit qu'il s'est fourvoyé, que c'est une erreur totale. Donc c'est un échec total pour eux. Comment peuvent-ils se justifier? Voyons, mais Yosef. Alors Yosef poursuit. N'attend pas de réponse. Ils ne répondent pas et Yosef poursuit. Voyons, mais Yosef et les Hav, Geshuna et Lai, Vaigashu. Donc, approchez-vous de moi. Ils se sont approchés de lui. Parce qu'il a vu, Rachidi, Ra'a, Otam, Nisogim, Lahor. Il a vu qu'il se reculait. Maintenant, mes frères vont avoir la honte de leur vie. Ils vont être offensés. Ils se sentent humiliés. Alors, il les a rapprochés avec des gentilles paroles. Il leur dit, Geshuna, s'il vous plaît, approchez-vous. Vaigashu. Voyons, Merani Yosef, Aïchem, Asher, Mechartem, Oti, Mitraima. Je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Donc il leur rappelle que ce qu'ils ont fait. Mais attends, et à présent, altéatsevu v'al yahar benechem, ne vous tourmentez pas pour ça, et que ça soit pas pour vous une douleur ou un tourment. Qui m'écartez que du fait que vous m'ayez vendu ici, qu'il est Mehia chez la Chani Elohim Lefnechem. Parce que c'est Hachem qui m'a envoyé ici pour la subsistance, pour permettre la subsistance, pour permettre la vie, que la vie se poursuive. Voyshalechani, il leur dit qu'il y a 2 ans de sont passés, 2 ans de famine sont passés, il en reste encore 5, etc. Alors il leur dit, Voyshalechani Elohim Lefnechem Lassum Lachem Sherit Baaret. C'est l'Éternel, c'est la Providence qui m'a envoyé ici pour me placer à ce poste-là, dominer l'Égypte, afin de préserver, d'arriver à susciter des réserves, de faire en sorte que la vie puisse se poursuivre et de donner la mihya, la subsistance à toute la terre, à toute l'Égypte et aussi à vous. Donc, Yosef, en fait, eux, ils sont dans l'échec total. Et alors, il leur souligne le fait qu'ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu comme esclave. Mais de l'autre côté, il indique que ce que eux ont fait a été transformé, a été manipulé par Dieu, a été transformé par Dieu et il a atteint les sommets du pouvoir, et c'est lui qui domine l'ensemble de l'Égypte. Donc il leur ouvre une porte de repentance. En vérité, l'acte qu'ils ont fait, c'est un acte mauvais, c'est un acte méprisable, mais en fin de compte, il en sort du bien. Le fait, c'est qu'il est placé là, au sommet de l'État. Et qu'il permet, le fait qu'il soit dans ce rôle, ça permet la subsistance, la parnassa de toute cette population-là, et en particulier de la famille, de son père et de sa famille. Donc il y a ici une dimension de providentielle. C'est ça ce que Yosef introduit ici. Donc il leur ouvre, eux ils sont dans une situation d'échec, dans une avéra, ils sont devant un mur, et Yosef leur ouvre une fenêtre pour amender, réparer les mauvaises intentions. Mais voyez, vos mauvaises intentions sont réalisées de manière positive. Donc il les amende, il les répare, il leur ouvre une possibilité de réparation. Et la réparation, elle va au-delà de ce qu'eux-mêmes ont dit. Eux-mêmes, ils ont regretté d'avoir vendu Yosef, non pas parce que Yosef ne méritait pas d'être vendu, mais parce que la douleur de leur père. Et Binyamin, ils ont essayé de le sauver, non pas parce que Binyamin, ils tiennent tellement à Binyamin, mais parce que c'est la douleur de leur père. Et là, tout d'un coup, Yosef leur ouvre une dimension nouvelle, c'est qu'il est un incontournable, et que ce qu'eux ont voulu, l'échec dans lequel ils se sont engagés, le chemin, une impasse dans laquelle ils se sont engagés, en vérité, elle s'est ouverte vers une réussite providentielle qui va permettre la continuité de l'histoire. C'est cette dimension-là, c'est ça le tikkun, en fait, ce qui permet la teshuvah, la réparation de la faute. C'est ça qui permet la réparation de la faute. Est-ce que eux, ils sont pleinement conscients de cette dimension ou ils n'en perçoivent pas l'étendue? Ça, c'est une question que Chachamim vont nous dire, que la faute de la réparation de la faute de Yosef va se perdurer pendant des générations et des générations pour effacer ce péché, jusqu'à la mort des 10 martyrs lors de la destruction du deuxième temple. Revenons un instant à la question que pose Yosef quand il se dévoile. Voyons, mais Yosef et l'Ahab, Ani Yosef, Aod Abihai, tout ça c'est une suite. Est-ce que mon père est encore vivant? Pourquoi? Il dit, je suis, voyons, mais Yosef et l'Ahab, il parle à ses frères. Ani Yosef, Aod Abihai. C'est-à-dire qu'il lit les deux. Il dit, je suis Yosef tel que vous m'avez vendu. Je suis Yosef tel que vous m'avez connu. Je suis le même Yosef. Est-ce que mon père est vivant? C'est pas est-ce que notre père est vivant, est-ce que mon père est vivant. Ça, il veut, là, Yosef indique, il sait pertinemment que Yaakov est vivant. Mais il leur indique que est-ce que mon père est vivant? Parce que sans moi, en fait, comme nous l'avons expliqué dans la structure des Sphirot, Yaakov, Avraham, nous avons les trois avots qui sont Avraham, Isaac et Yaakov. Avraham est le côté droit, la bonté absolue, attribuée au bras droit. Yitzhak est la rigueur absolue, elle est à gauche, c'est le bras gauche. Yaakov, il fait l'équilibre, c'est le buste, il fait l'équilibre entre les deux. Donc, il arrive à accommoder, c'est celui qui arrive à faire en sorte que les extrêmes qui ne sont pas faits pour se rencontrer se rencontrent et arrive à faire un aménagement, un arrangement entre les extrêmes. C'est Yaakov, c'est ça le sens de la démarche de Yaakov. Cette démarche-là, elle se continue par Yosef. Yosef n'est pas le fils dans la structure des Sphirot, il est la continuité du Père. Il est la continuité, c'est celui qui permet l'équilibre. Nous avons le concept que la Tiferet, c'est le fléau de la balance qui met la balance en équilibre. L'équilibre, l'harmonie entre les extrêmes, elle est continuée par Yosef. C'est-à-dire que Yosef, il n'a pas un rôle à part entière en tant que pour lui. Il travaille pas pour lui. Il travaille, il canalise, il récupère les énergies de la structure, de toute la structure qui est au-dessus de lui, et il la canalise pour que les frères, Yehuda et ses frères, s'épanouissent dans le malchut. C'est ça le concept du tzaddik. Le tzaddik n'agit pas pour lui, il agit pour les autres. C'est le concept même de la dimension du Yesod. Yosef, il va rien tirer de lui, il n'a pas d'énergie propre d'ailleurs. Il a l'énergie de l'ensemble de la structure. Et cette énergie-là, il la déverse afin que les éléments, il la partage, afin que ceux qui la reçoivent puissent s'épanouir et aller se grandir. Donc, entre autres, c'est Yehuda. Yehuda qui est le roi. Et la malchoute, c'est le bassin dans lequel Yosef, qui est le conduit des énergies de son père, va déverser dans le bassin du malchoute les énergies pour que ce bassin-là se remplisse et prenne toute la dimension qui lui revient. Donc, c'est ça ce qu'il lui dit. Aod avi hai. Est-ce que mon père est encore vivant? Ça veut dire, qu'est-ce que vous, pendant tout ce temps où j'étais absent, comment les énergies de mon père, de la ville, Chayout de mon père, vous est parvenu? Est-ce que cela vous est parvenu? Et ses frères ne peuvent pas lui répondre parce qu'ils étaient, c'est-à-dire que pendant tout le temps où Yosef est absent, les frères ne reçoivent rien du père, puisque le père lui-même, il a perdu son esprit prophétique, il est en somnolence, comme si que le père est en somnolence. Yaakov dort pendant c'est la dormita, ce que le Harizal appelle la dormita. C'est comme si que le Tiferet, cette puissance-là de la masque, du masculin, la puissance masculine n'a pas d'énergie, n'a plus les énergies, ne produit plus d'énergie afin de les diffuser à ses enfants. Il n'a plus d'énergie. Donc il est en sommeil. C'est le temps du sommeil. On est en attente de quelque chose. Et là, quand Yosef réapparaît, alors c'est lui qui va retrouver sa place pour que les frères puissent s'épanouir. Donc c'est ça ce qu'il leur dit. Et après il est dit quelque chose d'extraordinaire. Mais atalo atem shelachtem oti hena. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est la providence qui m'a mis. Je suis le Père. Voyez ici meni le'av. Les paroles adon les chol beto. Je suis comme le père de Pharaon. Je suis au-dessus de Pharaon en fait. Le av, le concept de av, c'est celui qui nourrit Pharaon. Pharaon ne fait que recevoir. Nous avons déjà dit que dans le rêve de Pharaon, Pharaon a une double vision. Il a vu quelqu'un qui est sur le Nil et il a vu lui, il s'est vu lui sur la berge. Donc il a vu qu'il y avait un personnage, il a rêvé de Yosef qui est au-dessus. Et qui c'est Yosef qui fait que le Nil, qui est la source de bénédiction et d'abondance de l'Égypte, c'est lui qui va tirer ces énergies-là pour les déverser sur Pharaon qui est sur la berge. Donc il est le père de Pharaon, pratiquement, et de l'Égypte, et de tout le pays, et de toute la région. C'est lui qui nourrit tout le monde. Et ça, c'est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'il dit au père après, il dit, vous allez vous dépêcher de ramener notre père ici, et vous lui direz, c'est moi qui te nourrirai, je te placerai, je t'installerai dans Erez Goshen, pour des raisons que là-bas il n'y a pas de Avodah Zarah, et je te nourrirai. Le Zohar dit que Yosef, que Yaakov avait des. Ne voulait pas descendre en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas, manger le pain des Égyptiens. Et le Zohar, dans Parashat Shemot, indique cette dimension de l'Égypte. Et le Zohar dit comment, sur le verset, dans le Zohar Parashat Shemot, Daf Gimel, à la page 3, il est dit, Vele Shemot Bene Israël. Voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte. Rabbiya Pata, Al Tilham et Lehem Ra'ain, Val Titav le Mat'aimotav. Il dit, ne mange pas du pain de celui qui est radin, celui qui est Ra'ain, celui qui est l'œil mauvais. Et ne désire pas ces délices. Ne sois pas jaloux de ces délices. N'espère pas en manger. Il dit parce que quand tu manges de quelqu'un qui est pas généreux, c'est quelqu'un qui va te donner à manger mais à contre-cœur. Il n'aime pas donner, il se sent obligé de donner mais il ne donne pas de manière généreuse. Et on est invité parfois, on boit un verre et c'est quelqu'un qui va dire c'est moi qui paye. Alors vaut mieux ne pas que chacun paye sa part. Ne pas, ou bien soi-même payer pour les autres, mais avec générosité, avec entrain et largesse. Mais si la personne dit, fais-moi plaisir, tu m'honores si je te paye. Donc c'est en acceptant que l'autre me paye mon repas, je lui rends service. Alors ça, c'est valable. Mais si quelqu'un, il paye parce qu'il se sent obligé, mais en vérité, il n'aime pas payer, il est gêné, à contre-cœur, et il verse à boire, et il a pas envie de le verser. Alors, ce qu'il te donne à manger est rempli de venin. Et ça, c'est ça, la définition de l'Égypte, c'est ça, l'égoïsme, comme nous l'avons déjà mentionné au sujet du maître et chanson. Il dit le Zohar, la vie au Kedel et Michal, Oulit Haneminé. C'est pas Kedel, c'est pas intéressant, ça vaut pas le coup de manger et de profiter de ce qu'il te donne. De Ikadna Hatou Israël et Mitzrayim, Loit Amunna Amad et Mitzrayim. Car si les enfants d'Israël en descendant en Égypte, ils ne s'étaient pas adonnés à manger et à profiter du pain des Égyptiens, jamais ils n'auraient été asservis. Lo Ishtav Kumb Galuta. Les Égyptiens n'auraient pas pu les maîtriser. Quand on accepte ce que l'autre donne, on se met sous sa domination. Et si l'autre, on accepte de manger le pain de ce gradin-là, de ce ra'aïn, comme il définit l'Égypte, alors c'est comme si on accepte de se mettre sous leur domination. Et là, on est sous leur emprise. Et on se détache de la madriga de destinée attachée directement à Dieu. Et c'est ça que Yaakov avait peur, nous dit le Zohar. Et c'est pour ça que Yosef lui précise, Vechilkalti otracham. C'est moi qui te nourrirai. Et il leur a déjà dit que c'est lui, tout ce que possède l'Égypte, lui appartient en fait. Et c'est seulement à cette condition-là que Yaakov accepte de descendre en Égypte. Donc au début, c'est Yosef qui nourrit. Mais après, les Bnei Israël vont s'adonner, vont déraper, vont perdre cette idée-là, et ils vont accepter de manger le pain de l'égoïsme égyptien. Et c'est ça qu'ils vont se mettre sous leur domination, en fait. Ils vont accepter de rentrer sous... C'est qu'on rentre sous leur domination, sous la coupe. Au lieu que ce soit Yosef qui nourrit l'Égypte, qui est au-dessus, Yosef qui est au-dessus du Nil, et qui nourrit, qui prend du Nil et qui verse, qui verse vers Paro, qui est sur la berge, c'est l'inverse. Ils se mettent sous la coupe de Pharaon, et ça, c'était l'erreur fatale à ne pas commettre. Le Zohar dit autre chose aussi. Le Zohar, il dit dans les paroles ici qui sont mentionnées, Yosef rappelle à ses frères, vous m'avez vendu esclave. Mais d'autre part, je suis devenu le maître de l'Égypte. Alors, le Zohar, le Rama Mipano rapporte cette notion au nom du Zohar. Il dit que si les blés, pourquoi était-il nécessaire que Yosef soit au préalable vendu en tant qu'esclave par les frères, avant de prendre le pouvoir et de devenir maître de l'Égypte? Il dit, sinon, si ça n'avait pas été de cette manière-là, jamais les Israélites n'auraient pu sortir d'Égypte. On explique. Le sens de cela est la suivante. Et le suivant, c'est qu'à aucun moment, Yosef, même quand il est le maître de l'Égypte, il n'a perdu son statut d'esclave. Il est, parce que les seuls qui peuvent l'affranchir, ce sont les frères. Et les frères ne l'ont pas affranchi. Donc, il était chez Potiphar, il est un esclave, il est en prison, il est en esclave, il sort de prison, il reste un esclave, il devient gouverneur de l'Égypte, il maîtrise il a un pouvoir absolu, mais il reste esclave. Les Bnei Israël, après cela, ils vont être, mais Yosef, c'est lui qui domine. On verra plus loin que c'est lui qui va prendre possession des individus, vont se vendre à Yosef. Pour Pharaon, mais ils se vendent. Donc c'est lui qui maîtrise, en vérité, c'est lui qui maîtrise, il possède l'Égypte. Plus tard, les Égyptiens vont asservir les Bnei Israël. Mais en fait, ils n'ont pas une domination totale sur les Bnei Israël. Pourquoi? Parce que eux-mêmes sont les serviteurs, de Yosef, qui est lui-même serviteur des frères. Et le Ham Israël, donc en réalité, l'esclavage égyptien, c'est un esclavage qui, c'est-à-dire les Égyptiens ont usurpé, ce n'est pas un esclavage total, c'est un esclavage de circonstances, mais dans le fond, ce sont les Israël qui dominent l'Égypte, qui devraient dominer. Donc c'est comme si que les Égyptiens ont usurpé le pouvoir de Yosef et ils l'ont renversé sur les enfants d'Israël. Il dit, c'est ça, c'est cette situation. Vous m'avez vendu esclave en Égypte, mais Dieu m'a donné le pouvoir et le pouvoir sûr. Il m'a donné le pouvoir. Vous m'avez rendu esclave. Je suis toujours esclave, mais j'ai le pouvoir. Et cette dimension-là qui va, c'est ce que Yosef indique. C'est cette dimension-là qui va permettre plus tard la sortie d'Égypte de sorte que avant la fin du temps imparti à l'exil, il puisse sortir. Et que le pouvoir total des Égyptiens sur les Bnei Israël n'est pas en vérité limité. Il n'est pas un pouvoir, il est usurpé, c'est un pouvoir usurpé. Il ne méritait pas en fait. Et ce que le Zohar dit, c'est pourquoi en fait, en réalité, l'exil aurait pu être un exil tranquille. Sans oppression, sans esclavage. C'est les Bnei Israël, quand ils ont voulu manger, se soumettre à l'Égypte, en mangeant de leur pain, c'est-à-dire rentrer dans le système, sous la coupe de la puissance économique de l'Égypte, c'est eux qui ont conféré à l'Égypte un pouvoir sur eux-mêmes. Et à la fin, c'est le pouvoir qui s'est renversé, donc le pouvoir de soumettre à Israël, a été un pouvoir usurpé. C'est pour ça que le pharaon va dire, on va effacer le souvenir de Yosef. Mais en fait, ils n'effaceront pas le souvenir de Joseph, puisque leur pouvoir n'est pas total sur Israël. Et c'est ça qui va permettre la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'il y a marqué que c'est Yosef, la mer s'ouvre, la sortie d'Égypte prend fin au passage de la mer, et la mer s'ouvre par le mérite de Yosef, parce que les Égyptiens, ils lui sont soumis, et lui-même est soumis aux enfants d'Israël. Donc le mérite de Yosef est au service des enfants d'Israël. C'est le sens du tzaddik. C'est ça le sens. Quand on dit que Yosef, il est le Yesod, il est la continuité du Père, et c'est Yosef qui va donner, c'est par le mérite Yosef, par le mérite de Yosef, que les enfants d'Israël vont traverser la mer, et ils vont être appelés à Ivrim, comme l'a été Abraham, ceux qui ont traversé la mer. C'est cette notion-là, ils la doivent à Yosef. Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.